Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Il est minuit 18 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Gaëlle qui a été très patiente et qui a attendu sagement son tour. Bonsoir Gaëlle.
Oui, bonsoir. Oui, je pense que Pascal avait de plus gros soucis que moi.
Oui,
et je lui souhaite tout mon courage.
Chacun ses soucis, ma chère Gaëlle, vous savez,
oui,
il n'y a pas
même
de...
Même si ce problème-là devient quand même de plus en plus récurrent. Hein,
oui.
L'histoire des appartements et des maisons squattées, enfin, c'est...
Préoccupant, en tout cas, préoccupant.
C'est ça, c'est ça.
C'est dingue. Ce que nous a raconté Pascal ce soir est vraiment dingue. Mais bon, il va falloir... que enfin nos hommes politiques finissent par entendre que d'honnêtes citoyens comme ça, qui se sont toujours bien comportés, qui ont payé leurs impôts, qui ont toujours été dans les clous au niveau de la loi, ne peuvent pas être victimes éternellement comme ça de mauvais comportements et de gens qui profitent du système. Il y a des failles, il faut les colmater, ces failles. Et je pense qu'un témoignage comme celui-ci nous montre qu'on devrait vraiment se pencher sur ce genre de questions. Mais il est question de vous maintenant, ma chère. Donc, qu'est-ce qui vous amène, Gaëlle? Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous déjà? Vous voulez nous dire?
Oui, j'ai 40 ans et ce soir, je vous appelle de Metz.
De Metz.
Et je suis originaire de Meuse, le petit département rural juste à côté.
D'accord.
En pleine campagne, bien loin de Paris. En fait, moi, je ne pensais même pas passer à l'antenne, sincèrement. C'était sur un coup de... un petit peu de fatigue, de colère, on va dire. Je vous avais envoyé un mail et votre collaboratrice m'a rappelé très sympathiquement. Et finalement, je me suis dit que je vous écoute régulièrement et que c'était quand même un sujet qui pouvait quand même intéresser. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Depuis longtemps, j'ai commencé à travailler à 19 ans. Je me suis formée au fur et à mesure. Je n'étais bien sûr pas diplômée à 19 ans, mais on pouvait encore rentrer facilement et puis apprendre à intégrer l'école. Et j'ai quitté en grande partie par épuisement il y a quelques semaines ce boulot-là.
Oui.
Et ce recul avait donc le fait de sortir de ça fait prendre du recul. Et je me dis que finalement, je suis en colère parce que mon travail, je l'adorais. Je dis toujours que je ne suis pas sûre de moi, mais en tout cas, sur le travail, je sais que je le faisais bien et j'aimais ce que je faisais.
Et pourquoi l'avez-vous quitté, en fait? Parce que je pense que c'est une partie importante de votre témoignage.
Et c'est ça. C'est en fait un ras-le-bol. Bon, alors, le Covid a un petit peu aidé. Alors, je ne sais jamais si on dit le Covid, la Covid.
La Covid,
la Covid.
Si ça vous fait plaisir de dire le, on s'en fout.
Oui, on s'en fout, voilà. A aidé aussi parce qu'on s'est retrouvé un peu en télétravail. En plus, moi, j'avais un petit problème de santé, donc j'étais un peu plus protégée. Et ce recul-là, en fait, m'a permis de prendre de la distance avec ce quotidien parce que c'est quand même un travail qui vous prend aux tripes du matin au soir et j'ai presque envie de dire des fois du soir au matin, ce que vous rentrez avec. Hein.
Mmh.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait taper contre des murs, bosser tant qu'on voulait, accompagner ces minots à bout de bras, tout faire, accompagner les familles. Et c'est le système ne va pas. Et on est toujours confronté. Alors, quelque part, ça peut presque rejoindre des problèmes comme votre auditeur précédent qui est confronté à une administration complètement délirante.
Oui.
Et où, des fois, pour des choses très simples, eh ben, il ne se passe rien. Et c'est ça. C'est-à-dire que, oui, je ne sais pas, un exemple, vous allez accompagner une famille, vous allez y croire, ils ont confiance en vous, ce qui n'est pas toujours simple, pendant des mois, une année, et puis il suffit que vous tombiez devant un juge qui, ce jour-là, n'a pas le temps, n'a pas assez étudié le dossier, ou remet votre parole en question, et tout s'écroule, et voilà. Et des réponses de direction qui disent qu'on n'est pas là pour... On ne nous demande pas un résultat, mais un accompagnement. Enfin, non, on ne nous demande pas la réussite. Et que le principal, encore une fois, c'est que l'administration soit faite.
Mais lorsque vous dites que vous tombez sur un juge qui ne vous suit pas, en fait, et qui met en péril, qui met en péril un enfant ou quelqu'un dont vous vous occupez, c'est arrivé, ça, déjà ?
Oui, c'est arrivé. Alors, je ne parlerai pas actuellement, mais c'est arrivé par le passé. Alors, moi, je remets un petit peu les choses en place. Département rural, les sortants d'école, notamment les juges, et on en a des très bien, attention, loin de là, je ne mets pas tout dans le même panier. Hein. Les sortants d'école ne choisissent pas ce département-là en tout premier choix. Hein. Mmh. Et souvent, dès qu'ils peuvent en partir, en partent. Il y a aussi ce problème-là dans la justice, hein, le fait que les juges, tout simplement, pour évoluer dans leur carrière, doivent partir au bout de 3 ans, alors que c'est presque là que vous avez instauré un climat de confiance et un vrai travail de partenariat.
Oui. Mais bon, c'est quand même un truc hallucinant aussi, hein, que les juges soient obligés de bouger et qu'on ne les laisse pas comme ça.
Oui, parce qu'ils n'ont même pas le choix. Ou alors, enfin, si, ils ont le choix, mais ils n'évoluent pas, en fait. Donc,
alors, on avait le cas de ce juge de l'antiterrorisme, hein, puisque il est assez médiatique, qui connaissait les dossiers sur le bout des doigts, qui est le juge Trévic, c'est ça ?
Oui.
Et qui s'est retrouvé à Lille pour les affaires familiales, s'il vous plaît. Le mec qui passe du terrorisme aux affaires familiales.
Voilà.
Y a quelque chose qui pourrait se discuter, en tout cas. On ne va pas passer notre temps ce soir à taper sur les juges non plus, parce que je pense
je tenais quand même pour... C'est qu'il y a aussi le nerf de la guerre, un manque de moyens énorme, des dossiers qui s'empilent, et je pense qu'eux sont seuls aussi, hein, face à tous ces dossiers-là et face à cette surcharge de travail, et qu'on ne peut pas, à un moment donné, c'est stop, et qu'ils doivent certainement se protéger aussi, et peuvent... C'est vraiment un manque de moyens.
Pour des gens qui, comme vous, ont la vocation d'avoir choisi ce métier, parce que je rappelle que juger les autres est quelque chose d'extrêmement compliqué. Prendre la responsabilité de juger les autres, c'est...
Alors, je me suis toujours interdit justement d'employer ce mot juger. Moi, je reste vraiment sur... En tout cas, je parle pour mon métier dans le social éducateur. Hein. Le juge est là pour juger. Mm-hmm. Nous, on est là pour accompagner, pour écouter, pour tenter de sortir quelqu'un d'un moment difficile, de peut-être des années difficiles, peut-être voire des générations difficiles. Mais on n'est justement pas là pour juger. Et ça, c'est aussi important. Je pense qu'on l'entend, tant les professionnels que tout le monde. Vraiment, juger, je pense que juste un éducateur n'a pas à juger, mais a bien à accompagner. Et ce n'est pas toujours simple. Et la deuxième colère, parce que c'est même pas une colère, ça fait partie de mes réflexions, parce que je cogite beaucoup actuellement. Et moi, donc, ça fait 21 ans. J'ai passé 21 ans dans le système et dans tout. Hein, je ne suis pas restée au même poste. J'ai fait la fonction publique, j'ai fait l'associatif, même la fondation, foyer d'urgence, accompagnement à domicile. Donc, j'ai fait le panel, en tout cas, du département. Et ça fait aussi 20 ans qu'on entend très régulièrement. Et où je vous rejoins, c'est les politiques aussi. Et je pense que il n'y en a pas un mieux que l'autre ou pire que l'autre, c'est toujours pareil. Un fait divers, il y a des annonces dans tous les sens.
Oui.
Tous les ans, on entend, combien de fois je le dis à mon compagnon ou à mes collègues, mais tous ces millions qui sont soi-disant débloqués, où sont-ils ? Enfin, c'est juste qu'à un moment donné, que les lois soient mises en place, alors ça des lois, mais des lois, il y en a de mises en place tout le temps. Des fois, on reparle même de faire des lois alors que la loi existe déjà, mais ils doivent avoir oublié, je ne sais pas. Mmh. Et sauf que derrière, il n'y a jamais les moyens. Alors là, on parle du social parce que moi, c'est le sujet que je connais par cœur et qui m'intéresse, mais c'est ce qu'on entend de l'éducation nationale, c'est ce qu'on entend de la justice, c'est ce qu'on entend... Et c'est encore une fois un problème de moyens. Donc
ça manque un peu partout, hein. Ça manque un peu partout.
Voilà. Sauf qu'ils sont quand même débloqués. Moi, je me demande juste dans l'organisation comment que ça se passe. Enfin, en foyer, et en plus, on est un petit département. Moi, des fois, je pense à des foyers d'hébergement à Bobigny. Mais comment que ça doit être ? Mais il y a 15 ans, on avait déjà une capacité à accueillir 12 petits dans un foyer et on était régulièrement à 16, 17 et on s'en fichait qu'ils soient sur un lit de camp ou 5 par chambre. Mmh. Enfin, c'est juste pas normal, quoi. Et quand on renvoie ça, parce que les décisions sont quand même prise par les politiques du département et par les choix, les directions à suivre. Et malheureusement, j'en arrive au constat, alors je suis peut-être un peu trop énervée ou complotiste, c'est le mot à la mode actuellement, mais en fait, j'ai beau retourner le problème, je me dis qu'on s'en fout. En fait, le social, on s'en fout. D'ailleurs, là, je crois que vous avez eu un auditeur hier ou avant-hier qui était éducateur, qui a rappelé
hier,
qu'il y avait
hier, David.
Voilà, qui était super. Enfin, je me suis
dit... Oui, qui avait un vrai point de vue, parce qu'en en fait, on voyait que son point de vue était alimenté par son quotidien en tant que qu'éducateur, et que... Bah oui, que malheureusement, on parlait de la prostitution chez les mineurs, et on voyait que le gars connaissait son boulot parce qu'il y avait été confronté. Mais voilà, il a évoqué, hein, comme vous, le manque de moyens, et parfois le manque de moyens ridicule. Hein, j'énonce toujours l'anecdote d'un de mes potes qui travaille dans... à la protection judiciaire de la jeunesse, qui me dit « Je travaille pendant 15 jours sur un jeune qu'on sort, hein, qui avait des difficultés parce que les parents étaient déjà à la dérive, qui avait fait quelques bêtises, mais qui était rattrapable. On arrive à lui trouver un stage qui le branche dans la mécanique parce qu'il adorait la moto. On n'a pas eu le budget pour que, sur le mois, il ait un ticket de bus qui coûtait 4,50 euros par jour. »
Oui.
C'est-à-dire que le stage n'a pas pu se faire à cause d'un ticket quotidien à 4,50 euros par jour. Vous avez connu ça, vous ?
Alors, l'exemple-là précisément, je m'en souviens pas, mais des aberrations pareilles. Oui, c'est-à-dire des parents, enfin, ça allait même loin. Je me rappelle d'un papa qui était... réellement à la dérive, isolé, avec beaucoup de problèmes personnels et des addictions, mais par contre qui aimait simplement aimait ses enfants. Moi, j'ai toujours dit, je pense que le principal, c'est l'amour. Une fois qu'il y a déjà cette base, on peut travailler derrière et on peut améliorer les choses. Et ce papa-là avait des droits pour venir voir ses enfants, donc il avait 40 km à parcourir, bien sûr, pas le permis. Département rural, hein, donc vous oubliez le train. Il y a un bus le matin, il y a un bus le soir. Et ce papa-là, quand il venait voir ses enfants, il avait un bus le matin. Et donc, il venait le matin. Si vous voulez, il restait 12 heures pour voir ses enfants durant 2 heures. Pardon, excusez-moi, je m'enrhume actuellement. Et en fait, il avait loupé, dû à son mal-être, à ses addictions... Il avait loupé deux rendez-vous qui n'avaient rien à voir avec ses enfants auprès de l'assistante sociale. Et de fait, on lui a pas donné son carnet de tickets de bus pour venir voir ses enfants, en lui disant qu'il fallait quand même qu'il soit responsable et qu'il vienne au rendez-vous qu'on lui a dressé. Voilà, je pense que ça fait aussi partie des aberrations.
Oui.
Et après, on dira que le papa n'était pas investi, qu'il ne se déplace pas, qu'il ne fait rien et qu'il... Et voilà. Enfin, vous voyez, je commence déjà parce qu'il y a tellement de choses qui m'énervent dans tout ça. Et j'en viens à la conclusion de me dire qu'en fait, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'on s'en fiche des gens en difficulté, sincèrement. Alors, quand je dis on s'en fiche, je ne parle bien sûr pas des gens motivés encore sur le terrain qui bossent, des gens qui tentent de faire parler de ces sujets-là, comme vous d'ailleurs. Mais je parle vraiment, et malheureusement, de ceux qui décident. Parce que c'est pas une population intéressante. C'est pas une population qui va aller voter. C'est pas une population qui rapporte de l'argent. C'est pas et c'est tellement dommage parce que, et il le disait hier d'ailleurs l'auditeur, en disant mais c'est tellement dommage parce que c'est notre avenir qu'on fout en l'air, quoi. Et il y a tellement de problèmes aujourd'hui qui ne devraient même pas exister si on avait mis ces moyens-là, mais réellement. Il y a 40 ans, il y a 30 ans, quand on disait qu'on le faisait, si on l'avait fait réellement. Si au lieu de... vous parliez d'aberration financière. Moi, je me rappelle un foyer, un des premiers foyers où je travaillais. C'était la fonction publique. Je ne sais pas si ça change. Enfin, ça change plus parce que pour la petite histoire. Et dans la fonction publique, quand on fait les comptes, il y a les sous ne sont pas les mêmes. Vous savez, vous avez le compte pour le papier, le compte pour la voiture, le compte pour l'alimentation. Et ce ne sont pas les mêmes budgets. Et un jour, c'était juste après la canicule 2003, je crois. Mmh. Il y a eu des budgets d'octroyer. Il fallait absolument que tout le monde s'équipe en climatiseur, ceux qui recevaient les personnes âgées, les enfants. Et nous, on savait que le bâtiment devait être quasiment, enfin pas détruit, mais ils ont enlevé toute la toiture. Il y avait vraiment, c'est un bâtiment historique. Ils devaient faire des gros travaux. Mais comme le budget était alloué pour la climatisation, il fallait quand même l'installer, sinon le budget était perdu. Mmh. Tout en sachant que 6 mois après, cette climatisation allait être démontée pour faire tous les travaux et qu'elle serait de toute façon changée, parce que tout le système changeait. Et on a juste dit qu'on ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas emmener un groupe de 12 enfants dans les Vosges 2 jours et qu'on faisait des travaux de cette ampleur qui allaient être détruits 6 mois après. Il fallait le faire, sinon le budget était parti. Et voilà, des aberrations financières. Et à côté de ça, on ne peut pas donner 4,50 € dans un ticket de bus pour un môme qui veut aller faire un stage. Voilà.
Oui. Alors, vous en avez eu marre de tout ça, Gaëlle, en fait.
Oui.
Et vous avez envie de changer aujourd'hui.
Oui, oui.
Est-ce que c'est facile de changer, en fait, de boulot?
Eh bien, après, je suis motivée. J'aime quand même plein d'autres choses. Mais... Alors, facile, en tout cas, moi, pour moi, je ne vois pas ça d'une façon compliquée. Ou... Disons que trouver du travail, il n'y a pas de souci. Mais où là, je me dis, c'est que, purée, je l'aimais bien, ce travail-là, et je sais que je pouvais apporter des choses. Et malheureusement, je me dis comment. Alors, comment, en gros, c'est comme si je me cherchais une nouvelle voie pour ce que je sais le mieux, c'est-à-dire... écouter, accompagner, vraiment prendre en considération l'être humain et pas le dossier, en fait. Vraiment la personne en face. Et voilà, comment. Et je réfléchis à ça en même temps, tout en... Voilà, et c'est une période de réflexion et d'imagination.
Qu'est-ce qui pourrait... Qu'est-ce qui pourrait, au final, vous déclencher tout ça de manière finale? Est-ce que vous cherchez actuellement ou pas?
Alors, c'est déjà très récent le fait que je ne travaille plus. Et j'avais aussi envie de me poser. Et puis, j'étais vraiment... Parce que cette réflexion du ras-le-bol, il n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. Ça fait un moment où je me dis qu'à un moment donné, il faudra arrêter le social. Et donc, je m'étais même orientée vers des choses totalement différentes. On m'a proposé de faire un petit peu de management dans une boîte. J'ai dit, pourquoi pas, je vais essayer de faire un peu de commerce. Mais je me dis, en fait, ce qui m'agace au plus profond, c'est que j'aimais vraiment ce que je faisais. Et que ce n'est absolument pas... Et je voudrais juste trouver l'idée, si des gens ont des idées. Parce que alors, je sais aussi qu'il y a, des éducateurs qui se mettent à leur compte. Il y a des...
Ah oui.
Qui bossent en privé.
Ah oui.
Après, sincèrement, en tout cas sur ma région, on va dire qu'il n'y a pas ce potentiel, je ne pense pas que la demande serait là. Mais voilà, donc c'était plus en termes de réflexion, de recherche d'idées. Et puis j'avais aussi envie quand même d'exprimer tout ce vécu-là, en disant qu'il y avait vraiment des gens, parce qu'on entend aussi régulièrement taper sur le social, hein, l'assistante sociale, ou l'éduc qui ne comprend pas, ou qui enlève les enfants. Mais il y a réellement des gens qui se défoncent quoi, sur le terrain, qui aiment ça, qui se donnent, et c'est pas de leur faute, quoi. C'est juste pas de leur faute.
Non, mais il y a un manque de moyens profond, hein. Vous avez eu raison de le ressouligner, et malheureusement, c'est pas parti pour s'arranger. Et dans le social, on sait que ça fait quand même quelques années que vous êtes les parents pauvres hein, de l'administration, et j'ai envie de vous dire que ça se ressent sur... les chiffres de la sécurité aussi, de la sécurité, notamment
oui.
chez les mineurs. Et puis même sur les chiffres de la sécurité en règle générale, parce que des gens dont on ne s'occupe pas au bout d'un moment qui sont au bout du rouleau, j'ai envie de vous dire qu'il y a bien des gens qui ont envie de manger, et il y a un moment où... Oui, ils prennent le système D, et le système D, c'est pas toujours les bonnes solutions, on est d'accord.
On est d'accord. Moi, je compare souvent, vous savez, à ce qui peut se passer dans les banlieues. C'est-à-dire, on dit qu'aujourd'hui, les banlieues, certaines banlieues, on ne peut plus y rentrer. C'est très communautaire. Il y a la loi dans la cité. Et je me dis, mais encore, faute à quoi ? Déjà, ça fait 40 ans qu'on a totalement abandonné. On a parqué, on a dit que c'était... les HLM, je rappelle que c'était normalement des logements d'urgence, on va dire, hein. ça devait changer. Et on a comme parqué, on a laissé, on a fait comme si on ne voyait pas, on leur a mis des magasins, des écoles à l'intérieur. Et à un moment donné, ça pète. Mais personne ne les considère, personne ne s'en occupe, personne. Et je me dis, le social, c'est ça, parce que vous parlez de l'insécurité qui monte, ou en tout cas qui est beaucoup plus visible et certainement aussi de plus en plus jeune. Cet effet-là, on ne peut pas le retirer. Mmh. Mais jamais vous n'entendez un journaliste, alors je parle sur les, hein, aux journaux, aux grandes chaînes, jamais vous n'entendrez un journaliste qui mettra ça en parallèle avec le social ou le manque de moyens dans le social. Mmh. On ne parle jamais du social en France. Ou alors, pour dire que ça coûte très cher et qu'il faut remettre les gens au travail. Enfin, tout est mélangé. Mais c'est de l'humour. Mais jamais. Et là, c'est, enfin, la preuve en est actuellement. Je crois que ça va être leur troisième, voire leur quatrième journée de grève là, la semaine prochaine. Et personne n'en parle. Mais même pas une petite radio qui dirait aujourd'hui, tant de manifestants. On n'en parle jamais. C'est comme s'il n'existait pas. Et je ne comprends pas ce manque de considération, cette non-vie. Tiens, moi, je ne me pense pas plus intelligente que quelqu'un d'autre, et notamment pas d'un politique. Et comment lui, enfin, il n'y en a pas un qui se dit « Ah ouais, c'est vrai que si aujourd'hui on y mettait vraiment le paquet, on serait peut-être tranquille quand même dans 15 ans, quoi. »
Mais vous savez, le problème, encore une fois, on en revient à la même chose, ce sont des problèmes de budget. Moi, je pense que vraiment, tout tourne autour de ça. Et quand on n'a pas les moyens de faire son boulot, c'est tout de même très compliqué. Lorsqu'on manque de moyens pour avoir des collaborateurs supplémentaires, même, et des moyens, même des moyens matériaux, quoi, c'est compliqué. C'est compliqué. Et tant qu'on n'aura pas revu ça à la hausse, ça continuera d'être compliqué. Donc, je comprends qu'à un moment, vous soyez, que vous en ayez marre, parce que c'est malheureusement votre quotidien, hein, de vous occuper des autres, et ça doit être très déboussolant, et ça doit être très, frustrant.
Frustrant, oui.
Oui, c'est ça, le vrai mot, c'est frustrant de ne pas pouvoir profiter, de pleinement de ses compétences, en fait, parce que ça bloque à un moment. Et moi, je vous comprends parfaitement. Je pense que beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent vous comprennent parfaitement, hein, Gaëlle. C'est malheureusement le quotidien de tout un tas d'assistantes sociales, d'éducateurs, de la protection de l'enfance, PJJ, assistantes sociales. Tous ces rouages, pourtant, nécessaires et vitaux pour que notre société continue à tenir debout, eh bien, tous ces rouages-là sont négligés. Et irrémédiablement, la société s'abîme. Quand ces gens-là s'abîment, quand ces gens-là perdent petit à petit leur vocation, eh bien, ceux qui en font aussi les frais, eh bien, ce sont tous les personnes dont vous vous occupez qui en font les frais. La répercussion sur la société, elle est claire. C'est qu'elle se traduit par des gens qui sont complètement à la dérive et qui finissent par prendre une tangente qui n'est pas toujours bonne pour eux, mais aussi pour la société. Je comprends parfaitement cette frustration. Je la vis régulièrement avec des amis à moi qui gagnent 1800 euros par mois, 1900 euros, donc peine, hein, des bac plus 6, bac plus 7, peine à atteindre 2000 euros net par mois, et qui pourtant se livrent corps et âme dans ce travail, dans cette mission même qu'est la leur.
Et c'est là que je me dis que, hormis de l'hypocrisie de la part des gens, enfin, on peut mettre, on peut mettre des milliards, et je ne dis pas qu'il ne faut pas, dans la découverte de l'espace et aller habiter une autre planète, et c'est très bien, mais ça, on s'en fiche, on ne considère pas. Et hier, pareil, l'auditeur disait, mais moi, j'aimerais tellement, je vais peut-être pas dire exactement, mais il disait qu'il aimerait tellement être face à un ministre ou à un... pour dire réellement, mais... Et je me dis, mais ils le savent, en fait.
Ouais, oui, je pense que, vous savez, les ministres, bon, même si on considère qu'il y a pas mal de politiques qui sont hors sol, et il y a beaucoup de ministres aussi qui sont confrontés, qui ont d'abord été des élus, donc
ils savent. Des élus locaux, donc ils le savent.
Et faut pas prendre ces gens-là pour des idiots. Je pense qu'ils manquent cruellement, eux aussi, de... Vous savez, on tape sur le nouveau ministre de... Le nouveau garde des Sceaux, ce garde des Sceaux, je pense que c'est pour d'autres raisons que sa gestion du ministère de la Justice qu'on tape dessus. C'est quelqu'un qui est, à mon avis, très brillant et qui pourrait faire de grandes choses, mais qui manque cruellement d'argent, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. Et il y a un délabrement, vous l'avez dit, vous, en tant qu'éducatrice, vous le constatez, il y a un délabrement de la justice, mais dont on parle souvent sur cette antenne, et qui n'est pas dû à l'incompétence des juges, parce qu'encore une fois, ces hommes et ces femmes se sont engagés sur cette voie-là, souvent par conviction, par passion. Il faut voir les études qu'ils ont réalisées pour arriver là. Mais je pense que cette défection dans la vocation, cette frustration, elle gagne aussi des magistrats. Et on peut penser que, Pascal, qui nous a appelé pour son histoire d'appartement,
oui.
A peut-être affaire à un juge qui, visiblement, a mal lu les premières requêtes de son avocate, qui stipulait bien la situation pour, dans un premier temps, ne pas statuer sur une situation qui paraissait pourtant claire, et en disant que tout n'y était pas... je pense qu'il y a des juges qui sont débordés et qui lisent les trucs en diagonale et les citoyens qui se retrouvent devant une justice qui représente quand même pour eux leur pays, qui est un grand pays dans lequel ils croient, s'aperçoivent que d'un seul coup, ce grand pays, il a pris un gros coup dans la figure et qui commence à s'effriter. Les murs commencent à s'effriter. Il y a des failles au plafond, des fissures au plafond. La peinture est défraîchie, malheureusement. Voilà. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que notre société se dégrade grandement.
Mais vraiment, et même quand vous parlez de budget, j'entends, mais je pense qu'en plus. Alors, je ne dis pas autant qu'on en voudrait, mais de l'argent, il est quand même, s'ils écoutaient réellement les gens de terrain sur les besoins. Un exemple aussi tout bête, on réclamait une réorganisation pas très compliquée et pas très onéreuse dans mon dernier emploi. Et on réclamait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, certainement même avant pour d'autres collègues, et on n'était pas entendus. Mais par contre, un jour, il y a un cabinet d'audit parisien qui est descendu, facturé 35 000 euros, pour nous écouter. Donc on a simplement réitéré tout ce qu'on disait depuis des mois, des années. Mmh. Et donc il y a un compte-rendu qui a été donné, et là, les conclusions étaient... Mais mot pour mot, on en a ri, mais quasiment mot pour mot, peut-être mieux écrit, ce qu'on réclamait, ce qu'on disait, tout simplement. C'est même pas réclamer, c'est ce qu'on disait, nos réflexions, en fait. Et voilà. Et là, d'un seul coup, ça prenait sens. Et pour nous expliquer 6 mois plus tard qu'il n'y avait pas l'argent pour le mettre en place. Mais n'empêche que ça, c'est quand même une aberration. C'est une aberration, c'est-à-dire qu'il suffirait d'écouter les gens qui sont confrontés au quotidien, les services, même les chefs de service. Il y a des directeurs de terrain qui sont juste formidables, impliqués. Et Et non, mais on va par contre claquer 35 000 balles pour faire bien et pour dire, bah oui, il y a un moment de crise, il faut calmer les gens, quoi. C'est ce que j'appelle, c'est ce que j'avais dit dans mon message, c'est en fait, on maintient un minimum de paix sociale et dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on en déverse juste assez pour que les gens ne s'énervent pas trop, tant les salariés que les gens qui sont dans le besoin qui ont tout simplement besoin d'être écoutés et reconnus. Et on leur saupoudre juste un minimum pour que cette colère n'explose pas. Mmh. Et on ne tente pas de résoudre les problèmes. C'est toujours, on colmate, hein, on va reboucher les trous, ça serait certes plus long et peut-être un petit peu plus cher sur le coup de casser complètement la route et de la refaire. Et je peux vous dire que dans mon département rural, c'est tout le temps, c'est de reboucher tous les ans à la même période les trous qui se reformeront. Enfin, à un moment donné, c'est vraiment un investissement sur l'avenir et je ne comprends pas ça. En tout cas, moi, je ne veux pas admettre que l'argent n'existe pas ou n'est pas là.
Je pense qu'on l'a dit et redit. Malheureusement, c'est un mouvement qui est enclenché et il va falloir vraiment une grande volonté de nos politiques pour qu'ils y arrivent. Merci en tout cas, Gaëlle, pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. On a Martine qui attend depuis aussi un bon moment. Donc on va vous embrasser et puis merci pour votre intervention. Et puis tenez-nous au courant. Si changement il y a un moment, vous connaissez le chemin maintenant. D'accord ?
D'accord. Merci beaucoup.
Au revoir, Gaëlle. Bonne soirée. Au revoir.